Bonsoir, c'est Supersonic, oui, oui. Mais en fait, faut-il parler de son à la radio? Parce que si on y réfléchit, dans la presse, par exemple, on parle assez peu d'encre, si on y réfléchit. Très sage, voilà le bon mot en un seul mot. Très sage, sur la page, encore presque blanche, tresseur, de la nuit, chacun son identité, et en même temps, ils marchent ensemble sans forcément le savoir. Influence qui se mixe pour troubler les caractères et donner lieu à autre chose, à du nouveau, de l'inattendu. Et puis, chemins anciens, lacets perdus, puis retrouvés à force d'hypothèses, de tests et de chants poussés. La culture a ses machines, les machines ont leur culture, les androïdes de ce soir seront d'hier et d'aujourd'hui. Salut, salut. Tout à l'heure, nous serons avec Nicolas Nova, professeur à l'école des hautes études d'art et de design à Genève, tête chercheuse étonnante et passionnante qui viendra notamment nous parler du reggae 8 bits où la machine croise les rastas et crée une culture hybride. Mais dans un premier temps, on va se retrouver dans une abbaye bretonne dont les mystères créent des vocations de chercheurs. Oui, ça va se croiser ce soir, les géographies et les usages. Et avec nous depuis France Bleu, à Quimper, France Bleu Brésisel, il y a Olivier Mano et Cécile Barandon. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes un duo de chercheurs, un duo relativement indépendant de chercheurs, mais travaillant sous l'égide du CNRS. Et dans cette première partie de Supersonic, ce soir, on va discuter avec vous pour savoir justement quel est votre travail ensemble, travail de recherche. Alors Olivier Mano, vous êtes occupé de la paroisse de Quimperlé en tant que prêtre pendant plusieurs années, à Quimperlé dans le Finistère, je crois pendant 7 ans. Vous êtes docteur en théologie, archéo-acousticien, et Cécile Barandon, donc vous êtes assistante de recherche sur ce travail de recherche que vous menez tous les deux, avec, si je me trompe pas, initialement une passion pour l'architecture médiévale, non, la sculpture dans les églises, Cécile Barandon, c'est ça ?
L'iconographie, oui, tout à fait.
Voilà, qui est un début pour commencer à parler avec vous, mais ce que vous menez, voilà, depuis un petit moment maintenant, c'est tout un travail sur, pour le dire au plus large, pour commencer à discuter, l'acoustique des abbayes, des édifices religieux du Moyen-Âge, c'est ça ?
Oui, exactement, oui.
Olivier Mano.
Oui, nos travaux ont commencé effectivement dans les abbayes, et on s'est retrouvé un peu dans ce cadre-là.
Il est vrai qu'en fait, là, on est tombé. Notre collaboration a permis de réaliser une sorte de spectre, en fait, des caractéristiques acoustiques des églises romanes. Mmh. Ben, ça a commencé par le chant grégorien, ouais. Parce que la mélodie grégorienne, quand elle se passe sous une voûte romane, ben, il y a une chose très particulière, c'est qu'il y a une sorte de dialogue qui s'établit entre le chant et l'édifice. Alors, bien sûr, ça superpose, on entend des notes qui sont superposées, elles se passent successivement, et ça donne l'impression d'harmonie, en fait, d'une ambiance très particulière.
Oui, parce que
on a l'impression qu'il y a plusieurs voix qui se superposent.
Le point de départ de votre recherche, justement, c'est quoi ? C'est une forme de mystère à l'intérieur de ces abbayes médiévales, abbayes romanes, lieux religieux romans. Un mystère sonore, c'est ça ? Est-ce qu'on peut parler de ça comme ça ? Parce que votre travail de recherche, en tout cas dans sa première partie, ressemble, on peut le dire, à une forme d'enquête.
Oui, d'enquête, ouais. Enquête, on va dire, si on avait creusé dans la terre, on aurait dit de fouilles archéologiques. Ouais. Mais là, en fait, on était une sorte d'auscultation des édifices. Et au détour du chant, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait certaines notes, certaines fréquences qui étaient très particulières. Les lieux rentraient en résonance, en vibration. Et finalement, notre question, c'était de savoir, est-ce que c'était délibéré ou pas, d'où ça venait ? Est-ce que ces phénomènes-là ont été voulus, est-ce que c'était un choix des moines d'une part, des bâtisseurs d'autre part, et d'où ça venait. Donc il y a eu plein de questions, parce que, si vous voulez, il y a quand même des choses très très particulières qui se passent. Ça vibre, quoi, dans l'édifice. Mais ça vibre pas n'importe quand, n'importe comment, et dans n'importe quelle position. Mmh. Il faut se mettre dans des endroits particuliers. Mmh. Donc il y a à la fois une enquête sur l'emplacement, et puis sur le placement de la voix.
Pour revenir au point de départ justement de ce qui est devenu une recherche, encore une fois, sous l'égide du CNRS, c'était un questionnement ou un ressenti personnel pour vous deux, une expérience sonore avant toute chose, qui vous a fait poser ces questions-là, ou ces phénomènes sonores sont des choses connues, bien que mystérieux, encore une fois.
Il y a une particularité, c'est quand on est dedans, donc ce que je disais tout à l'heure, donc cette impression d'harmonie, c'est qu'au départ, il y a une sorte d'enchevêtrement de notes. Mmh. On va d'abord distinguer le phénomène de l'écho, d'une part, puis après, il y a le temps de réverbération, d'autre part, et puis enfin, on va voir la résonance, qui est le fait d'entendre, en fait, c'est le fait d'entendre simultanément un son. Et derrière, donc, les harmoniques. Alors là, on est bien sur trois phénomènes différents, même s'ils ont une incidence les uns sur les autres.
Et ça veut dire que, en fait, tout se passe comme si, à certains moments, quand on passe sur certaines notes, vous entendez une voix cristalline par-dessus, un petit peu comme, vous savez, quand on frotte un verre de cristal et il y a une petite note suraiguë qui surgit. Et ce phénomène-là, qui est un phénomène harmonique, il ne surgit pas sur toutes les fréquences. Ou plus exactement, il fait partie de la voix, donc on l'entend systématiquement. Enfin, quelqu'un qui a une bonne oreille, il va entendre toujours la première, la deuxième harmonique de la voix humaine. Mais étonnamment, dans les édifices, sur certaines fréquences, ces harmoniques sont amplifiées. Et donc on entend comme une voix d'enfant au-dessus. Et quand, dans nos conférences, Cécile et moi, on intervient, on commence toujours par faire écouter un enregistrement qu'on a fait. Mmh. Et on demande aux gens de dire quel type de questions ça leur pose d'entendre cet enregistrement. Ils nous disent toujours, les deux questions principales qu'ils posent, c'est combien il y a de personnes qui chantent, alors qu'il n'y en a qu'une? Et est-ce que ce sont des enfants qui chantent la deuxième voix qui est derrière? Et parce qu'en fait, alors que ce sont quelquefois des voix, simplement une voix d'homme, on entend des harmoniques telles que on a l'impression qu'il y a d'autres voix, qu'il y a un cœur qui fait des bouches fermées, voilà. Et même dès le IVe siècle, quelqu'un comme Jean Chrysostome disait que les moines chantaient avec les anges et que les anges chantent à l'octave, mais en fait c'était une lecture spirituelle de phénomènes harmoniques qui se faisait uniquement quand on passe sur la note de résonance.
Cette note s'appelle, est-ce que c'est celle-là qu'on appelle la note sympathique?
Alors c'est un type de vocabulaire qu'on peut utiliser. Effectivement, c'est le terme grec permet de justifier qu'on a, lorsque vous faites une note, vous en avez une autre qui surgit. Alors ça peut se vérifier quand vous allez visiter un magasin d'instruments de musique, par exemple, et puis que vous chantez, et puis vous allez avoir les cordes du piano, vous essayez une clarinette, et vous avez les cordes du piano et de la harpe qui est à côté de vous qui se mettent en vibration, oui.
Alors comment s'est déroulée cette enquête justement dans différents lieux religieux, différentes abbayes? C'est à la fois une enquête acoustique et historique. Comment vous l'avez menée de manière très pratique et méthodologique?
Déjà, il a fallu en fait pouvoir donner une identité sonore aux édifices. Donc ça se manifestait aussi par une sorte de transcription dans les dimensions ou les formes architecturales. Donc, par exemple, comme le rapport longueur du transept par la largeur de la nef. Généralement, on dit qu'une abbatiale masculine se situe autour de 1,5 et pour les abbayes féminines, autour de 2,4. Donc voilà, ça c'est un indice que l'acoustique des lieux, donc normalement, aurait pu être pensée soit pour les hommes ou soit par les femmes. Donc c'était un début d'investigation, d'essayer d'affirmer que ces lieux étaient construits vraiment pour les hommes et d'autres vraiment pour les femmes.
Un 5 de 4 pour être précis, c'est quoi? C'est ce rapport de proportion, c'est ça?
Alors oui, il y a à la fois des, comme dit Cécile, il y a à la fois des choses qui sont liées aux mesures physiques de l'édifice, parce que si on considère que le volume d'une nef, d'une église, c'est comme un instrument de musique, comme une caisse de résonance, vous voyez bien, si vous avez à côté de vous un violoncelle ou un violon ou une contrebasse, vous avez la même famille d'instruments, vous avez des volumes qui sont différents et donc vous allez avoir des registres sonores qui sont pas les mêmes. Quand on regarde, sans faire de ségrégation, mais quand on regarde vers le corps de la femme, le corps de l'homme, on a une morphologie qui est quand même un peu différente. Et on peut concevoir, en tout cas c'était l'hypothèse, de se dire, mais est-ce que pour les abbayes féminines, est-ce qu'ils ont réglé de la même manière que pour des abbayes masculines. Mmh. C'était un peu ça le point d'enquête, puisqu'on s'est dit, mais manifestement, moi je me souviens, c'était tout au début, quand je commençais à faire ces investigations-là, et j'étais très content quand Cécile m'a rejoint, c'est que dans l'abbaye de Locmaria à Quimper, j'y avais été un peu les yeux fermés, sans avoir fait d'études historiques de l'endroit. Mmh. J'avais été chanté pour chercher une note de résonance et je la trouvais pas. Et je me dis, c'est pas possible, c'est quand même, elle a pas beaucoup été retouchée, c'est du 12e siècle. On devrait trouver. Et alors je monte un peu la voix en prenant une voix de tête. Et puis j'arrive sur une fréquence de résonance assez haute. Je me dis, c'est pas possible, les moines ne pouvaient pas chanter à cette hauteur-là. Mmh. Ça pouvait pas être leur note de récitatif. Puis en penchant sur l'histoire, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était une abbaye féminine. Et je me dis, bah oui, ça explique tout. Une octave au-dessus, ça pose pas de problème, ça peut être que des femmes. Et alors, c'était le début de se dire, mais est-ce qu'ils étaient à ce point soucieux du son d'avoir pu régler ça aussi pour les femmes, et que du coup, ben, la nef est plus étroite, que l'instrument de musique, la caisse de résonance est plus étroite, donc le son est plus aigu. C'est normal. Et donc, avec Cécile, on a fait le tour d'un certain nombre d'abbayes en Auvergne, et ce qui nous a permis d'identifier et de faire des mesures pour comparatif, d'un côté les abbayes masculines, où c'était plutôt moi qui faisais les tests, et puis les abbayes féminines, où c'était plutôt Cécile, et on essayait de voir si effectivement ça sonnait mieux pour des hommes ou pour des femmes. Et c'était assez quand même troublant et intéressant, passionnant, de se rendre compte qu'il y avait une vraie spécificité.
Oui, en partant sur trois méthodes.
Trois méthodes, oui, d'investigation. Tu fais bien de me relancer.
Bah oui, parce qu'à la base, c'était
allez-y,
ça.
Allez-y.
Voilà, donc il y avait une méthode de physique, c'est-à-dire qu'on va, par rapport aux dimensions, on va mesurer les volumes et les dimensions. Donc là, on pourra revenir là-dessus, mais il y a ce qu'on appelle un module de construction. Mm-hmm. Donc à l'époque médiévale, ils avaient une mesure qui était propre à chaque édifice, mais qui était un même module. C'est-à-dire que, par exemple, vous aviez 70 fois ce module pour la longueur de l'église, vous aviez 40 fois pour la longueur du transept. Et c'est toujours un nombre entier, mm-hmm. multiple de ce module.
Oui, il y a une unité par bâtiment, en fait, c'est ça que ça veut dire.
Exactement, mm-hmm. et qui est quelquefois joué à quelques centimètres près. Et ça veut dire aussi que, donc, si vous voulez, après on chante dans le lieu et on mm-hmm. vérifie que ce module-là, on le retrouve parce que le phénomène vibratoire spécifique, mmh. il est ce qu'on appelle les ondes stationnaires. Les ondes stationnaires, donc le son est sinusoïdal, et si vous avez la longueur d'onde du son qui est exactement proportionnée au module de construction, mmh. vous vous mettez dans des points clés acoustique de l'édifice, et vous avez votre longueur d'onde qui va arriver en même temps sur toutes les parois de l'édifice et qui va revenir complètement amplifiée.
Et c'est là et cette troisième voie dont vous parliez tout à l'heure, c'est là qui est spécifique à chaque bâtiment.
On peut dire ça.
Et c'est cette recherche vocale, ce chant, voilà, qui est une manière de tester, de chercher, d'effectuer une recherche oui. sensible. C'est ça ce qu'on appelle la recherche du diapason.
Exactement. Oui.
Ouais. On va écouter On va écouter à quoi ça ressemble. Quand vous êtes en train justement de chercher à l'intérieur, en l'occurrence de l'abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé, voilà ce que ça donne. Écoutons. Ce qu'on entend, Olivier Manot et Cécile Barandon, là, c'est une montée graduelle et méthodique. J'imagine que c'est ça, pour le coup, il n'y a pas une unité par bâtiment que vous visitez, c'est toujours la même manière de chercher.
Exactement, oui. C'est-à-dire qu'on fait une sorte de montée chromatique, mais et qui arrive à un moment, sur un moment vibratoire, où on sent que l'enregistrement est quelquefois un peu partiel, parce que...
Mais, c'est arrivé normalement.
On arrive sur un moment où on sent que les harmoniques sont amplifiées et que le volume sonore est accru. Alors que la puissance de la voix est la même, mais c'est le retour de son dans l'édifice qui... Alors là, l'échantillon que vous écoutez, il est très partiel, parce que quelquefois ça dure un quart d'heure, 20 minutes.
On imagine bien. Toute la même puissance.
Exactement.
Oui. Ouais. de la personne qui a fait les enregistrements.
Oui.
C'est Kervin Roland qui a procédé à l'enregistrement.
Ouais, de certains d'entre eux. Parce que quand on était en Auvergne, c'est nous qui les avions fait. Mais dans l'abbaye Sainte-Croix...
C'était lui, oui. Oui. On avait passé une soirée pour faire ça.
Parce qu'en fait, parmi les... Il y avait d'autres phénomènes. Quand on lui avait envoyé nos échantillons, on nous a dit, mais il y a aussi autre chose là-dedans. Et c'est lui qui nous avait aiguillé aussi sur les battements binauraux, parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait, un décalage de fréquence entre l'oreille droite et l'oreille gauche, et que l'abbaye, les voutromanes, suscitaient des phénomènes acoustiques que lui travaillait beaucoup. Et on s'est rendu compte que ça avait même probablement une fonction apaisante ou thérapeutique. Enfin voilà, ça, on avait creusé ça avec lui. Là, c'était pas l'objet initial de notre recherche, mais au détour de nos investigations, c'est lui qui nous a mis sur cette piste-là.
Donc, en quelque sorte, un relief supplémentaire à l'intérieur de la résonance de certains bâtiments. Et donc là, si on comprend que vous êtes à la même puissance vocale, effectivement, il y a des moments qui paraissent beaucoup plus forts que d'autres.
On entend bien là. Et là, on entend effectivement sur certaines fréquences une sorte de non seulement de boucle, mais de phénomène, enfin, l'harmonique supérieure de l'octave et même de la quinte, on l'entend bien. Et c'était probablement sur ces notes-là qu'en fait les moines chantaient la note d'appui de leur psaume. Et par moments, bien sûr, il y avait des petites ornementations, mais on s'appuyait toujours sur cette note-là qui était une note très gratifiante pour celui qui chante, parce que d'un seul coup, on a l'impression de ne pas être tout seul, quoi.
Mais est-ce que l'enregistrement et la diffusion, comme on le fait ce soir, de ces moments de recherche sensible, recherche vocale, in vivo, in situ, rend justice à ce qu'on entend dans le lieu? Est-ce qu'il y a des choses qui...
Non.
Non, ah oui, voilà, la réponse est claire. Cécile Barandon, c'est-à-dire...
Le ressenti est totalement différent entre une écoute... comme ça, que ce soit à la radio ou même avec un casque stéréo, encore là ça peut le rendre un peu plus juste, mais le lieu apporte vraiment quelque chose de supplémentaire. Le ressenti est amplifié, c'est toute une ambiance, je dirais, déjà par le bâti, et après d'entendre, en fait on est comme enveloppé par les sons, par ces harmoniques en fait, et puis on entend ce surgissement, ce diapason là qui arrive, c'est vraiment très très particulier à expliquer. On n'aura jamais suffisamment de mots pour donner vraiment le rendu de ce qui se passe dans notre corps.
C'est pour ça que dans les conférences qu'on organise, on a choisi, même si on n'est pas chanteur professionnel ni l'un ni l'autre, de non seulement de faire une explication didactique, mais en fin de conférence, on a toujours des actes de chant, on appelle ça récital, et on se positionne dans différents lieux de l'édifice pour que les gens comprennent que, suivant le lieu, mm-hmm. Suivant même l'orientation de la voix du chanteur, les phénomènes ne sont pas les mêmes. Et donc, du coup, il y avait une vraie connaissance et il y avait une vraie raison liturgique et acoustique de se mettre à tel ou tel endroit pour chanter. Voilà, ça c'est sûr.
Mais quelle est la matière, on va dire historiographique, de ces questions-là, quand vous vous en êtes saisi il y a plusieurs mois maintenant, l'un et l'autre, Olivier Manot et Cécile Barandon.
Plusieurs années,
donc sous l'égide encore une fois du CNRS. Quelle était la matière justement, en dehors du fait que les bâtiments sont là, est-ce que vous avez pu vous appuyer sur des éléments qui ont pu vous aider à, comme vous le faites, creuser cette recherche vers ce qu'on peut appeler une forme de génie architectural et acoustique quand même?
Exactement. Alors en fait, il faut probablement remonter assez loin, parce que Cécile a nommé tout à l'heure les trois, avec le vocabulaire qui est un vocabulaire contemporain, les trois phénomènes acoustiques
l'écho, la résonance, la réverbération.
Voilà, mais derrière ça, il y a un vocabulaire qui est très antique, qui remonte très loin, même à l'Antiquité, qui est le terme d'écho. Et donc là, on a essayé de plonger dans l'histoire et on a bâti un petit peu, c'est aussi, on dit ça dans nos conférences, ce qu'on appelle la trajectoire de l'écho, d'où ça vient, cette recherche par l'être humain d'apprivoiser le phénomène sonore et dans ces dimensions assez particulières.
Oui, on peut déjà parler d'un enracinement en fait mythologique. On va un petit peu parler de la nymphe écho. Voilà, on va vraiment aller très loin. Donc en parlant de Ben, Ovide. Mm-hmm. Donc ça, c'est, on est dans les légendes étiologiques, et celle d'Ovide, c'est la légende qui retranscrit un petit peu le mieux, je dirais, le phénomène de l'écho. Enfin, cette histoire-là, par cette nymphe, donc qui a été élevée essentiellement par des nymphes, mais elle était, la particularité, c'était qu'elle était très prolixe. Mmh. Alors voilà, c'était ça, c'était qu'elle inventait beaucoup d'histoires, elle parlait tout le temps. Enfin, c'était aussi pour distraire Hera pendant que Zeus, enfin voilà, il avait quelques amours. Ailleurs, il était assez courtisé. Oui.
Mais ce dont on se rend compte dans votre travail aussi, c'est que justement ces formes légendaires, mythologiques, des traces légendaires mythologiques se trouvent parfois dans certaines des abbayes que vous avez étudiées. Et une que vous connaissez bien, qui est l'abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé, donc dans le Finistère, il y a des traces, par exemple, d'hippopotames, c'est ça, sur les chapiteaux dans l'abbaye. Oui. Et vous mettez ça en lien avec des possibles notes de musique.
Alors en fait, il y a deux registres différents. Là, ce que Cécile était en train de dire et de nous expliquer, c'est que en fait, le terme d'écho était attribué à une personne mythologique, et que cette terminologie-là a traversé les siècles jusqu'au Moyen-Âge, et que il y avait en fait derrière ça, il y avait un phénomène fondamental. Alors après, la question effectivement des animaux dans l'iconographie associés à des notes de musique, ça c'est autre chose qui est spécifique plutôt à une tradition indo-européenne très large et qui, dans certains lieux, s'est vérifiée. Et donc, il y a eu une étude qui a été faite par un certain Schneider en Espagne sur un certain nombre de cloîtres. On s'est rendu compte qu'il y avait effectivement des mélodies qui étaient inscrites sur les chapiteaux des cloîtres des abbayes, parce qu'il y avait chaque animal avait une note de musique, et donc on retrouvait le début d'une intonation d'une hymne grégorienne. Mmh. Donc ça, ça a été vérifié, et donc on s'est appuyé effectivement là-dessus. Dès qu'on est dans une abbaye, on recherche effectivement les représentations iconographiques des animaux, parce que quelquefois c'est un indice complémentaire de savoir si ils ne sont pas en train de nous donner le nom d'une hymne grégorienne ou d'une note de résonance spécifique. Donc effectivement, comme vous le disiez, à l'abbaye Sainte-Croix, il y a des hippopotames qui sont représentés, ce qui est comme pas un animal courant en Bretagne. Donc on s'est posé la question s'il n'y avait pas une symbolique liée au son. Mm-hmm. Voilà.
Oui, l'abbaye se situe entre deux rivières aussi.
Exactement.
Donc c'est le cheval du fleuve.
Ouais, en grec, hippopotamus.
Mais justement, cette science à la fois architecturale, iconographique, oui, la lumière d'ailleurs, c'est une question sur laquelle vous travaillez aussi, au-delà du son. Ces questions-là, vous les avez, et cette science que vous avez acquise aussi, vous l'avez déplacée pour aujourd'hui. Alors j'ai lu sur un de vos sites, la clé du moderne est cachée dans l'immémorial, une citation du philosophe Giorgio Agamben. Mais justement, la question du moderne aussi, l'application moderne de ces recherches, au-delà de la connaissance historique, justement de ces questions acoustiques et architecturales, c'est une forme d'application en relation avec l'architecture contemporaine et l'architecture dédiée aux soins, justement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette activité qui est la vôtre aujourd'hui?
Alors effectivement, il nous est arrivé au cours de conférences de rencontrer des gens qui ont été intéressés par nos travaux. Mmh. Et Cécile nous disait toujours, on ne sait jamais dans les conférences, il faut être ouvert parce qu'il y a des gens qui pourront nous faire rebondir sur d'autres axes de recherche. Mmh. Et c'est comme ça que effectivement on en est venu à appliquer nos investigations dans les abbayes médiévales ont petit à petit été au bénéfice de structures complètement différentes auprès de personnes handicapées.
Et alors ça se passe comment? C'est-à-dire que ces personnes handicapées sont des autistes. Les autistes ont souvent une forme d'hyperacousie, d'hypersensibilité au son. Les lieux qui doivent les accueillir, pour les soins en particulier, vous dites il faut prendre en compte cette hyperacousie, faut l'anticiper en fait, c'est ça, pour ne pas provoquer par exemple des crises qui seraient inutiles, entre autres choses.
Ben oui, la particularité en fait des personnes qui ont des troubles de type autistique, c'est vrai qu'ils ont souvent, ils peuvent être vite submergés parce qu'ils ont une difficulté ou voire même peut-être l'impossibilité d'ordonner et de donner un sens aux informations sensorielles en général, que ce soit le son, que ce soit donc la vue, tout.
Hiérarchiser en fait les stimuli qui arrivent, c'est ça?
Oui.
Et en fait, donc, l'intérêt, dans un sens, quand on est dans une abbaye, c'est que le bâti, il existe. On essaye de comprendre comment les gens qui l'ont habité ont tissé les phénomènes sonores, les ont utilisés, les ont voulu. Et là, aujourd'hui, on accompagne la construction de centres d'accueil pour personnes avec autisme. Mmh. Et donc, on connaît les personnes, on connaît leurs spécificités acoustiques. Et nous-mêmes, toute l'investigation qu'on a faite en sens inverse à partir d'ABI par rapport à retrouver les phénomènes sonores. Maintenant, on connaît les phénomènes sonores de ces personnes-là, on les enregistre, on les identifie. Et on se dit, si on veut éviter que certains retours de son leur soient préjudiciables, on fait attention du coup que le module de construction dont on a parlé... Mmh. Et on conseille aux architectes, faites attention, faites pas un module de 20 cm par exemple, parce qu'autrement cette personne-là, dans sa chambre, si elle crie, à cause de l'enregistrement qu'on a fait, on sait que ça va amplifier le phénomène, et ça risque du coup, comme disait Cécile, s'il y a trop de retour de son, la personne, ça va amplifier son phénomène de crise.
Oui, ça va provoquer une sorte de saturation des sons.
Et donc, ce qui était recherché par des moines, d'une part, parce que ça donnait l'impression d'être plusieurs dans l'abbaye, au contraire, pour des personnes avec autisme, il va falloir les chercher des phénomènes qui soient plus feutrés pour qu'ils ne se sentent pas submergés. Quoi.
Voilà, il faut éviter que leur environnement soit perçu comme menaçant ou anxiogène, justement, parce que sinon c'est lié par cette hypersensibilité perceptive.
Ça signifie aussi que les architectes, certains architectes en tout cas, et les personnes qui font appel à vous et à vos conseils, se posent la question du son finalement. Ça aussi, c'est assez récent, assez nouveau.
Oui, en France.
Oui, en France, ouais, c'est récent. Ouais. C'est récent, c'est nouveau, mais il faut bien comprendre que la compréhension de la réalité de l'autisme s'est beaucoup affinée ces dernières années, et que, effectivement, aujourd'hui, il y a des établissements spécialisés. De plus en plus, parce que le diagnostic s'est affiné, et avant, certains jeunes ou certaines personnes se retrouvaient en structure hospitalière psychiatrique, mais c'était pas ce qui leur convenait. Donc aujourd'hui, le diagnostic est plus fin, mais les établissements sont sous-équipés ou pas, il n'y a pas suffisamment de place. Donc il y a actuellement beaucoup de création d'établissements, et la prise en compte de cette spécificité acoustique est en route, voilà, s'améliore. Mais dans certains pays comme le Canada, ils sont bien plus en avance que nous.
Vous dites que la question sonore doit dialoguer avec la lumière, voire l'odorat. Ça veut dire quoi?
Alors ça, il y a plusieurs domaines. C'est-à-dire que par rapport aux personnes avec autisme ou...
Oui, éventuellement, oui, les personnes en situation de handicap.
Bah oui, parce qu'ils ont souvent une hypersensibilité et à la lumière et au son. Mm-hmm. Et donc ça va souvent, en fait,
c'est bien ce que
ça marche ensemble. Hein. C'est comme en français, on utilise même l'expression écoute voir. Ça veut bien dire que entre la vue et l'audition, il y a des choses qui se passent. Donc si quand la personne est en crise acoustique, si on peut arriver en même temps à tamiser la lumière pour apaiser, ça peut être vraiment très bénéfique.
Quoi. Oui, ce sont des stimuli perceptifs, des sens en fait. Mm-hmm. C'est justement, ils ont une difficulté ou une incapacité à les traiter de manière intégrative.
Oui, donc il faut le penser dans une logique de soins. On a bien compris que c'était on a parlé beaucoup de sons évidemment avec vous ce soir, Olivier Manot et Cécile Barandon, mais votre travail va au-delà de ça, et on a compris aussi comment un travail de recherche historique acoustique glisse très clairement vers une question de conseil, en l'occurrence de soins et de médecine très contemporaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir expliqué ces recherches que vous menez depuis plusieurs années. On va se quitter avec vous deux qui chantez, donc évidemment du grégorien. C'était enregistré à l'abbaye de Sainte-Croix, donc à Quimperlé. Lumen at revelationem gentium. J'ai bien dit, ouais. Je suis pas sûr.
Oui, tout à fait.
Voilà.
C'est une hymne du temps de Noël.
Très bien. Et donc on va se quitter avec ça. Merci beaucoup d'avoir été avec
Merci
nous.
Merci beaucoup.
Depuis France Bleu, Grégisel, à bientôt et bonne suite à vous.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Précision, c'est l'association Les Pierres qui chantent, qui est le cadre aujourd'hui du travail et des recherches d'Olivier Manot et Cécile Barandon. Évidemment, on met le lien vers Les Pierres qui chantent sur le site de Supersonic sur franceculture.fr.
France Culture, vous êtes à l'écoute de Supersonic, de Thomas Baumgartner.
Et avant de continuer, avant de passer à la deuxième partie de l'émission, notons le festival Hydraphonie, dont c'est la première édition. Hydraphonie qui place le son précisément dans certains lieux de culte, cathédrales et églises, dans le Périgord cette fois, à Sarlat et à Sarzac. Ça se passe les 17 et 18 juin prochains. Charlemagne Palestine est ainsi attendu sur le grand orgue de la cathédrale Saint-Sacerdoce à Sarlat pour un duo avec Phil Niblock. Il y aura aussi par ailleurs Felicia Atkinson, Rhys Chatham, entre autres. On met le lien aussi sur la page de Supersonic sur franceculture.fr. Ça s'appelle donc les Hydraphonies. C'est un nouveau festival d'art sonore, ça se passe en Dordogne et ce sera juste avant l'été. Attention, ne lâchez pas vos agendas. Ce que vous entendez, c'est un solo de percussion signé Nicolas Fenouilla. Et c'est aussi une histoire du rythme, depuis les rythmes africains jusqu'au rock. Et à Kiss Moon, légendaire batteur des Who. Figurez-vous que Nicolas Fenouilla propose en ce moment, pour encore une petite quinzaine de jours, une exposition à la Galerie Métropolis. C'est rue de Montmorency à Paris. Nicolas Fenouilla, on a dit un jour qu'il fallait qu'il choisisse entre l'art contemporain et la musique, et il a répondu qu'il lui était impossible de choisir entre son père et sa mère, formés autant par le conservatoire que par les beaux-arts. C'est un plasticien musicien, voilà ce qu'on peut dire de Nicolas Fenouilla. Et la musique est au cœur des pièces qu'il propose de voir en ce moment à la Galerie Métropolis. L'exposition s'appelle Dance Floor, et c'est d'abord un dance floor qu'on aperçoit dans l'exposition, un revêtement doré sur lequel on est invité à marcher sans se soucier de l'abîmer ou de le salir, et il sera à terme mis au mur. Pour le reste, Fenouilla a traduit certains grands tubes du rock anglo-saxon. Suzanne de Leonard Cohen devient une sérigraphie multiple sur tissu. Make It Rain de Tom Waits, un portrait de sœur, un portrait ambigu de deux sœurs. Paint in Black des Rolling Stones devient une sorte de réminiscence des aplats de Malevich. Dylan, Patti Smith, Pink Floyd sont aussi dans les parages. Et une batterie détruite trône au milieu de la pièce sous le titre L'âme du solo, le solo qu'on entend sans doute en ce moment. L'artiste propose une expérience finalement de synesthésie. La musique devient forme et en même temps c'est une bande-son personnelle qui est partagée. D'ailleurs, Nicolas Fenouilla voit son accrochage comme une grande partition. On conseillera particulièrement le film qui est projeté au sous-sol de la galerie qui montre une sorte d'orchestre de métronome en marche. Une expérience assez hypnotique. Ça s'appelle donc Dance Floor de Nicolas Fenouilla. C'est à la Galerie Métropolis, rue de Montmorency à Paris pour encore une quinzaine de jours. Monkey Island, la bande-son de Monkey Island, un jeu vidéo bien connu du début des années 90, si je me trompe pas, et qui va nous permettre d'aborder le deuxième temps de Supersonic ce soir autour d'un livre 8-bit reggae, 8-bit reggae, collision et créolisation. C'est un livre publié aux éditions volumiques avec le Near Future Laboratory, un livre signé Nicolas Nova, enseignant à la Haute École d'Art et Design de Genève, cofondateur de ce Near Future Laboratory, qu'on peut peut-être traduire par laboratoire du futur proche, spécialiste aussi de l'interaction homme-machine entre autres, intérêts et passions multiples plus ou moins liés au numérique. Bonsoir.
Bonsoir.
Nicolas Nova, merci d'être avec nous ce soir pour parler de ce livre un peu particulier, parce que d'abord il est paru je crois il y a une grosse année, un peu plus peut-être.
Ouais, ouais.
Voilà, et il est publié en anglais, mais voilà, on va s'en parler parce qu'il y a on va partir de cette pratique un peu étonnante de cette musique 8 bits, c'est ce qu'on vient d'entendre en fait, c'est ça, une sorte de musique en low technologie, peut-être le plus bas possible, en tout cas qui a nourri aussi pas mal d'oreilles de gamers il y a quelques années, ça remonte à presque 30 ans, c'est grosso modo les premiers moments. Mais c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est de croiser cette question du reggae et la question de ce type de technique et de technologie. Et pourtant, ce que vous dites d'emblée, en fait, en faisant dans ce livre une sorte d'historique aussi du reggae tout court, et nous, en nous expliquant aussi ces caractéristiques liées aux jeux vidéo, c'est qu'il y a pas mal de points communs en fait entre ces deux domaines qui a priori apparaissent totalement distincts.
Ouais, effectivement, l'idée du livre, moi je l'ai eu d'abord parce que j'ai envie de travailler sur le reggae et le dub, à la fois par passion, et puis comme je viens du monde du numérique, j'ai travaillé sur les questions de jeux vidéo, d'iPad, d'interface, et quand j'ai découvert en fait l'existence de ce courant, de ce micro-genre, on pourrait dire, je trouvais ça un peu étrange, et donc du coup je me suis dit il faut creuser ce truc-là, donc aller faire des entretiens avec les créateurs, les producteurs, et c'est en cours de route en fait, plus je rentrais dans le sujet, plus je me suis rendu compte que ces deux mondes qui étaient a priori un peu distants, éloignés, en fait, n'étaient pas tant que ça sur différents niveaux, sur les manières d'aborder les ressources à disposition pour la création, le lien avec la technique, la machine, et que du coup, il y avait une histoire fascinante à raconter, même si c'est un micro-genre qui est pas nécessairement très connu, mais c'est pas grave parce que il y a un côté à la fois amusant, fascinant, mais en même temps qui me semble intéressant aussi pour comprendre qu'est-ce que c'est que la culture aujourd'hui.
Ça, c'est une question de fond, justement, la question de la créolisation. On y arrivera sans doute, qui est dans le titre de votre livre, mais c'est vrai que la question du mélange, du remix, on vous le dit d'ailleurs, on trouve ça d'emblée dans l'histoire même du reggae, qui est finalement une histoire de mélange, de remix, de réappropriation en tout cas.
Exactement. L'histoire des cultures en général, on retrouve toujours ce genre de dynamique, mais c'est particulièrement présent dans le reggae, qui est une espèce de forme d'hybridation de musique nord-américaine écoutée sur des postes de radio en Jamaïque, qui arrivait quand même sur les ondes en Jamaïque, de rythmes africains, notamment d'Afrique de l'Est, amenés tragiquement par les esclaves, et puis quelques éléments mélodiques qui pouvaient venir des navigateurs, des pirates, des manières de chanter, des Européens en fait. Et donc là, il y a une espèce de creuset qui s'est fait, hein. On pourrait en parler des heures aussi. à travers toutes sortes d'autres cultures qui sont quand même formées, enfin il y a quand même un enjeu assez tragique là derrière, parce que c'est quand même le commerce triangulaire qui amène à ce genre de choses et l'esclavage, mais quoi qu'il en soit, ça donne cette production hybridée, le reggae, le jazz en est une autre dans le sud des États-Unis, et revient, peut être remise sur le tapis avec la question du reggae beat, où on voit une espèce de réappropriation de certains codes, certaines manières de produire la musique avec d'autres moyens qui sont en l'occurrence des vieilles consoles, trentaine d'années de jeux vidéo, qui sont pour une certaine communauté de gens les moyens du bord pour se réapproprier cette musique avec lesquelles ils ont voulu faire quelque chose. Et ça c'est fascinant parce que ça pose aussi la question de la part de la technologie. Quand l'instrument ça devient un vieux Commodore 64 ou une Game Boy, parce que c'est ça dont il s'agit. Je sais pas si tout le monde a encore en tête, je pense la Game Boy oui, le Commodore 64 peut-être moins, mais quand c'est ça, les on sait même pas dire si c'est un instrument ou si c'est un outil de production d'ailleurs, mais il y a quelque chose de curieux et d'intéressant. L'algorithme finalement informatique a une part dans le reggae.
Il vient une sorte de co-auteur.
Voilà.
On peut dire
voilà,
ça.
Ouais. On pourrait dire ça. Ouais.
Mais d'ailleurs, ce que vous dites aussi, c'est que dans l'histoire du reggae, avant que ça se translate sur une question plus purement technologique, la question de la technique joue. Vous parlez de sound system, ça devient partie prenante, intégrante du genre musical lui-même. La technique a déjà sa part à ce moment-là.
Oui, alors dans le sound system, donc le fait d'avoir un DJ. Le DJ au sens jamaïcain, c'est un peu différent de la manière dont on l'utilise. C'est aussi quelqu'un qui chantait par-dessus les disques qui passaient. D'avoir ces platines avec des vinyles dans lesquels on passe des rhythms, donc des rythmes, des boucles basse-batterie. Donc c'est déjà une forme de travail avec la technique.
Et des boucles qui amènent aussi, qui invitent aussi à la réappropriation.
Absolument.
Déjà à l'intérieur d'elle-même.
Ouais. Quand on dit un rhythm, alors c'est peut-être un peu étrange de parler, peut-être on peut prendre un morceau précis, ce Stalag 18, quoi, c'est un rhythm précis. Il y a des centaines de gens qui le reprennent, qui chantent par-dessus, qui toastent par-dessus, on devrait dire. Alors ça, c'est un premier exemple. Un autre exemple, c'est l'importance de la console de mixage, avec des gens comme Lee Scratch Perry, qui, dans les années 60, 70, c'était finalement un des magiciens, en fait, du dub, donc de retoucher les morceaux avec des effets. Et la console de mixage devient une espèce d'instrument, de moyen de participer à la création musicale. Donc ça, on retrouve ça dans la lignée du reggae. Il y a eu aussi l'arrivée du reggae digital, dans les années 80. Ce qui est assez amusant, parce qu'aujourd'hui, quand on dit le mot digital, on pense à des choses très récentes et numériques, mais à partir des années 80, vous avez toute une bande de Jamaïcains en Jamaïque à Londres qui criaient digital, digital avec des chansons parce que c'était tout un courant dans le reggae d'utiliser des synthétiseurs qui ont pris, dans certains cas, une part très importante sur, enfin, pour se substituer aux musiciens. Et on peut reconstituer des étapes suivantes en tirant parti justement la réutilisation d'autres technologies comme les consoles, qui se situent en fait dans une espèce d'évolution.
Oui, d'une console à l'autre en quelque sorte, puisque là on parle plutôt de console de jeu. Ce que vous dites, c'est qu'il y a eu une influence même du reggae. Vous dites que Bob Marley est allé jouer au Japon en 75, par exemple, et vous parlez d'une influence du reggae sur les créateurs des premiers jeux vidéo grand public. Il y a quelque chose qui se passe dans ce sens-là, pas forcément dans l'autre sens, qui pourrait être une réflexion comme ça. Le reggae influence les créateurs, en tout cas, de jeux vidéo.
Ça, c'était une découverte, parce qu'a priori, moi, je pensais regarder les gens qui font du reggae aujourd'hui avec des Game Boy, des Commodore 64, mais je me suis rendu compte qu'il y avait toute une généalogie de sound designer dans le jeu vidéo qui étaient des fans de reggae. Vous avez Hip Tanaka qui faisait le son sur certains jeux de Nintendo Entertainment System, de Famicom dans les années 80, qui dit explicitement: moi j'adore Sly and Robbie, j'adore tel morceau de Bob Marley, et je vais penser les jeux avec l'équipe de création en introduisant ces rythmes. On le retrouve après dans d'autres jeux, on a écouté Secret of Monkey Island, mais après quand on continue à essayer de creuser cette métaphore, on se retrouve à voir que, je sais pas, Patrick Chamoiseau a participé à la création d'un jeu vidéo. Et c'est fascinant parce que on voit ensuite une espèce de cohérence en fait dans ces cultures de l'hybridité.
Mais ce que vous dites aussi, c'est que il a fallu une convergence de plusieurs facteurs. Le fait que les créateurs de jeux soient sensibles au reggae, c'est une chose, mais il fallait aussi que l'industrie soit sensible au son. Et ceux qui ont compris un peu ça dans les premiers, c'est Nintendo, qui a compris qu'il y avait le sound design faisait partie de l'expérience du gamer.
Oui. Nintendo, qui est une société plutôt très créative et qui se soucie du détail, de l'expérience des joueurs et des joueuses qui utilisent ces produits, alors qu'ils soient des consoles, du matériel ou des jeux, s'est bien rendu compte qu'il y avait un truc hyper intéressant autour du son et qu'il fallait innover de ce côté-là. C'est d'ailleurs toute une histoire à faire, parce que c'est un peu oublié, le son et le jeu vidéo, d'une part, et la part de Nintendo là-dedans, mais qui est calculé minutieusement, les questions de rythme, le lien entre le rythme et puis la progression dans le jeu. Et donc c'est surtout eux qui ont innové de ce côté-là. Alors après, chez Commodore, avec l'ordinateur Commodore 64, il y a eu aussi tout un soin. C'était les débuts de l'informatique personnelle. On savait pas trop, les gens à l'époque savaient pas trop ce qu'on pouvait faire de cette machine. Et moi, j'ai un Commodore 64 où j'ai encore le manuel. On voit, dans le manuel, il y a une partie sur le son et la musique est très importante parce qu'on pensait à cette époque que ce serait un moyen d'expression musicale au même titre que graphique. Donc, chez certaines sociétés, et ça a été le cas chez Atari ensuite, il y a eu un peu ce soin du détail, de fournir, en fait, de mettre à disposition au grand public des moyens de créer des trucs et de faire des sons avec les moyens du bord, mais qui sont maintenant, on les reconnaît, il y a un caractère qui est quand même assez saisissant.
Vous parliez d'Atari à l'instant, Nicolas Nova, il y a un label qui s'appelle J'Atari, mais on est vraiment là dans le croisement entre le reggae et la culture informatique des débuts. We'll be right back. Pressure Drop, une reprise, hein, bah c'est souvent ça, hein, quand un morceau de reggae a du succès, il est repris, ou inversement, s'il est repris, c'est que c'est un succès. Pressure Drop par Dub Mood, sur ce label Jatari dont on parlait un instant. Alors vous avez rencontré Nicolas Nova pour votre livre, pour ce 8-bit reggae, des compositeurs, hein, bah oui, c'est ça, c'est des compositeurs, notamment quelqu'un qui s'appelle Gotu 80, Gotu 80. Alors c'est drôle, ce pseudonyme est assez fascinant, parce qu'à la fois ça nous ramène à des langages informatiques, langage basique, si je ne me trompe pas. Go to 80, ça veut dire aller à la ligne 80. Et en même temps, on se dit, ça veut dire revenir aux années 80, ce moment de début, de ces premiers sons en MIDI qu'on entend là. La question de la nostalgie, elle est présente quand même dans cette sous-culture des musiques 8-bit, et en l'occurrence le reggae.
Oui, c'est souvent un peu quand on parle de ce courant musical. Alors, au-delà du 8-bit reggae, on parle de chip tunes, donc de musique ou de morceaux de musique faits avec des chips, donc des microprocesseurs, notamment ceux des machines des années 80. On pense souvent à la nostalgie, hein, et effectivement, les gens qui ont vécu cette période, peuvent le voir de cette manière-là. Mais quand j'ai rencontré des gens comme Jatari ou Dub Mood, hein, qui vit à Marseille d'ailleurs en passant, qui est suédois, enfin c'est intéressant de voir aussi des gens qui sont peut-être aussi un peu plus jeunes que l'époque où il y avait ces machines. Donc est-ce qu'il s'agit vraiment de nostalgie? C'est quelque chose qu'on peut remettre en question. Ouais. Il y a effectivement une part pour certains des compositeurs plus âgés et puis des auditeurs certainement une part de ce côté-là, mais c'est plus que ça en fait. Mmh. Et c'est plus que ça parce que réutiliser aujourd'hui un Commodore 64 ou une Game Boy pour produire ces morceaux, bah c'est déjà une évolution, c'est déjà un changement.
On peut la distinguer de l'époque d'où la machine est issue.
Oui, ouais, absolument. Alors, un phénomène intéressant aussi, parce qu'il faut voir les instruments, Jatari, c'est un label qui démonte aussi les Commodore 64. Ils peuvent vous vendre un Commodore 64 remonté pour produire du reggae. Ils appellent ça la Jatari Dub Machine. ça coûte à peu près 1 000 euros. C'est fait. C'est des gens à Leipzig qui vont refaire ça de manière très bien, mais avec un côté très 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 brut. Et quand on voit l'objet aujourd'hui, on voit très bien que c'est pas juste un objet des années 80. C'est une espèce de d'hybridation technologie ancienne et d'aujourd'hui, et qui va amener à une production qui rappelle certains traits, alors peut-être là on peut avoir une nostalgie là-dessus, mais qui amène à d'autres formes de composition, d'autres formes de sonorité, parce qu'il peut y avoir des problèmes, des glitches, des bugs, etc., qui sont des accidents de parcours qu'il n'y avait pas forcément à l'époque, mais qui viennent du mariage de ces technologies avec des technologies nouvelles.
Le glitch, le bug, donc tout ça, ce sont des accidents, en l'occurrence, sonore dans un morceau, par exemple, et ça fait partie de l'esthétique de certains des compositeurs. C'est l'artefact numérique, c'est ça. C'est quand on, par exemple, ça arrive régulièrement quand on copie, par exemple, des fichiers et des choses qui arrivent même sur une image. C'est ça qu'on appelle un glitch. Alors, pour revenir à l'entretien que Gotu 80 vous accorde dans votre livre, justement, il dit, c'est pas forcément sur la question de la nostalgie, mais il dit, enfin, il y a une question esthétique essentiellement. C'est-à-dire qu'il dit que l'esthétique chiptune va bien au reggae. C'est-à-dire que pour lui, il y a quelque chose de sec, il y a quelque chose de carré, voilà, et pour lui, c'est un choix esthétique aussi, quelque chose de solide, voilà, qui fonctionne bien dans son envie musicale, en fait, c'est ça qu'on parle.
C'est ça, ouais, sans vouloir faire une histoire résumée de l'histoire de l'art, qu'on a pu revoir aussi, par ailleurs, une forme de arte povera, art pauvre, ce serait peut-être pas vraiment donner une vision un peu gratifiante de tout ça, mais c'est de voir certaines caractéristiques assez minimales et brutes dans des formes culturelles, ce qui est éminemment le cas dans le reggae, mais également avec la musique chiptunes et la musique 8-bit dans le reggae, qui est intéressante parce qu'elle a cette correspondance d'avoir quelques très très peu d'éléments qu'on reconnaît, le rythme, le son de la basse. Et puis, c'est facile d'associer à ça quelques sonorités qui rappellent des samples, des échantillons de certains jeux vidéo, comme on l'a pu l'entendre tout à l'heure.
Voilà, Gotu 80, par exemple, compose ce Steel Egg, qui est donc un œuf en métal, c'est ça?
Ouais.
Un œuf en acier. Yeah. Steel Egg par Goto 80, un morceau composé spécialement pour votre livre, Nicolas Nova, c'est ça ?
Oui, alors il était assez enthousiaste quand je lui ai proposé de l'interviewer pour un travail, une espèce d'ethnographie du reggae U8, et puis il s'est tout de suite proposé de composer un morceau spécialement pour montrer son propos, en fait, et montrer par la pratique et la création ce que tout ça signifiait.
Alors vous dessinez une... je ne sais pas si c'est une théorie, en tout cas, vous proposez une idée qui est celle de la créolisation, vous adaptez cette idée d'Edouard Glissant aux propos qui vous occupent dans ce livre-là. Je me suis demandé si c'était pas, puisqu'on a parlé d'hybridation, et effectivement on a parlé de mélange, de remix, de réappropriation, de grands schémas musicaux du reggae, et donc adapté particulièrement à cette scène de chiptune et beat. Je me suis demandé si la créolisation n'était pas une manière d'en parler comme pour ramener le reggae dans la sphère anti-caraïbe d'une certaine manière. Il y a aussi cette cohérence-là d'en parler.
Ouais, il y a de ça, évidemment. C'était une manière de dire que l'histoire d'un phénomène créolisé continue, en fait, en lien, mais également à distance de la sphère caraïbe. Alors, il y a évidemment avec le reggae et puis le jeu, il y avait quelque chose d'amusant à regarder là-dessus. Mais il y avait aussi un autre point, moi, qui est le propos moi, que j'essaie de défendre, c'est cette hypothèse que les machines, les algorithmes participent aussi de ces formes d'hybridation. Hein. La créolisation, c'est un terme qui est défini par d'abord des linguistes et puis ensuite par des anthropologues ou des gens en lettres hein, comme Édouard Glissant, qui fait référence en fait au croisement de différents éléments culturels qui vont être hybridé, puis donner quelque chose qui sera une nouveauté, qui sera quelque chose d'original. Et alors évidemment, tout ça est aussi très chargé politiquement, du point de vue colonial et l'esclavage, et on pourrait faire une critique de la notion de créolisation en disant, mais est-ce qu'on peut généraliser la situation tragique des Caraïbes à ailleurs ? Bon, ça c'est un autre débat. Moi, je m'inscris pas forcément là-dedans. Ce qui m'intéressait, c'était plutôt de me dire, mais est-ce que la technique, les objets techniques, jouent un rôle en fait dedans, de manière, alors soit automatique, soit semi-automatique, soit c'est programmé, soit il y a des éléments qui amènent à des surprises, comme le glitch dont on parlait tout à l'heure. Alors, c'est pour ça que je développe en fait, sans être trop académique, hein, je prends ces théories de créolisation, puis je prends les travaux d'un autre chercheur. Hein, qui s'appelle Basile Zimmermann, qui travaille sur des questions aussi de circulation d'éléments culturels, de différences culturelles, et qui a toute une théorie intéressante sur la circulation en fait d'éléments culturels qui sont inscrits dans les objets dans les objets techniques. Et ce qui m'intéressait, c'était de relire ces questions de reggae 8 à travers ces différents auteurs en me disant, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'innovant enfin qui veut dire plus que ce qu'on voit dans le reggae 8, mais qui est une description plus de notre condition culturelle aujourd'hui, dans lequel on a différents éléments culturels qui peuvent être reconnaissables par les gens, comme on l'a pu le voir avec le reggae ici, certaines formes de rythme, certaines sonorités. Mais est-ce que, au milieu de tout ça, dans ces hybridations, il n'y a pas un rôle particulier qui conviendrait d'examiner des machines, et des machines certes programmées et construites par des humains, mais qui, parce qu'elles vont amener à quelques petites altérations, quelques changements de ces éléments culturels, vont jouer un rôle dans peut-être la création de formes culturelles étranges, curieuses, originales, et qu'on peut retrouver au-delà, évidemment, du reggae.
C'est ça que vous appelez la créolisation machinique ?
Voilà, c'est le terme qui est peut-être un petit peu barbare, qui m'intéresse à développer. Je pense que c'est plus une une hypothèse que maintenant je m'intéresse à regarder dans d'autres champs, dans d'autres domaines.
Et c'est ce que vous continuez de chercher d'ailleurs à travers un livre qui est paru après, celui sur le 8-bit reggae qui s'appelle Dada Boat, justement, dans d'autres champs culturels, comment la machine finalement permet aussi à certaines formes culturelles et artistiques de sortir de la norme aussi, et donc comme vous disiez, créer un format original. Est-ce que ça veut dire que éventuellement ce reggae 8-bit dont on a compris que c'est quelque chose qui a émergé début des années 80, les premiers pionniers, c'est à peu près à cette époque-là, auraient été d'une certaine manière des pionniers ou des annonciateurs de cette créolisation machinique que vous trouvez et vous désignez dans des objets plus contemporains aussi, notamment dans celui dans Dada Boat.
Oui, c'est un peu l'hypothèse que je fais. Maintenant, comme je me suis concentré sur le reggae 8-bit et sur ces époques, je prétends pas du tout à une exhaustivité totale et générale. Je pense qu'on peut voir aussi dans d'autres courants que le reggae, si par, dans la musique électronique, on peut voir des phénomènes assez similaires. Je pense aux productions de Oval, par exemple. Mais je suis certain que dans la littérature, si on prend d'autres domaines de la culture, dans la littérature, on pourrait trouver aussi des choses du même ordre dans l'écriture générative, etc., etc. Alors maintenant, je repars un peu à rebours, à me dire, mais est-ce qu'il n'y a pas des prémices ailleurs ? Mais finalement, la question, elle est peut-être moins de quand est-ce que tout ça a commencé, qu'est-ce que tout ça veut dire pour aujourd'hui et demain, qu'est-ce que ça signifie, avec un mythe qui, je pense, à déconstruire, c'est que c'est pas juste des machines qui font des choses toutes seules et qui sont, enfin, ces croisements, ces hybridations, il y a tout un réseau d'acteurs là-dedans, et puis là, on pourrait convoquer toutes sortes de théories en sociologie, en anthropologie, hein, sur l'acteur réseau notamment, mais qui nous permettent de comprendre que il y a peut-être des bouts de sons qui sont produits par des gens qui enregistrent des choses avec leur iPhone, qui mettent ça sur SoundCloud. Il y a quelqu'un dans un coin qui programme un petit software pour aller chercher ces contenus, les réassembler. Et puis au cours de route, il y a un bug dans le système, où il y a une limite qui fait qu'il n'y a pas la place pour plus, et puis ça va amener à tel ou tel changement. Et à l'arrivée, on a la production d'un espèce de contenu hybride qu'on ne sait pas trop comment qualifier. Et c'est ça, moi, que je trouve intéressant.
Mais avec cette hybridation, dans un cadre où... parce que là, on parlait d'une culture... une sorte de culture underground, et en face d'une culture qui serait une culture grand public, ouverte au grand jour. Est-ce que cette distinction, en parallèle de ce que vous disiez à l'instant, Nicolas Nova, n'est pas dépassée aussi? C'est-à-dire que chacun, effectivement, la marge est partout, en quelque sorte, d'une certaine manière.
Oui, la marge est partout. Et puis, même avant de penser à ça, quand on voit des petits programmes qui permettent d'écrire on pourrait dire de prendre la place de journaliste, mais d'écrire des articles dans des revues comme Forbes sur les informations, les comptes rendus sportifs, c'est le même mécanisme qui est derrière. Il y a un programme qui va aller chercher, par exemple, des photos d'un tel événement sportif, un autre qui va aller chercher dans les bases de données statistiques des éléments de contenu sur les résultats, et puis ensuite, le programme, c'est écrire grossièrement une page qui va fournir un compte rendu qui sera formé de bribes de contenu, d'éléments de contenu qui viennent produits soit par des gens qui étaient spectateurs, soit par des machines. Et c'est ça. Je pense que avant même de dire que tout ça est de la marge, c'est déjà le cas, en fait, dans certains médias aujourd'hui.
L'algorithme avec nous, la créolisation machinique, la créolisation algorithmique. Voilà, on a pu en parler avec vous, Nicolas Nova, tout en parlant de ce livre, 8-bit Reggae Collision and Creolization, avec un bel accent, donc publié par Volumique et votre Near Future Laboratory. Puis on a parlé rapidement de Dada Boat, qui est paru chez ID Pure Edition. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
Merci de m'avoir invité.
Fin de Supersonic pour ce soir. Pour poursuivre cette stupéfiante expérience qu'est l'écoute de Supersonic, vous avez le site franceculture.fr où, il faut le rappeler, les émissions sont réécoutables pour toujours. France Culture en ligne, c'est l'immortalité pour toutes les oreilles. C'est impressionnant et c'est un bon début. L'émission était préparée et coordonnée par Inès De Bruyne et réalisée par Véronique Lamandour. Au son ce soir, il y avait Pascal Bénard et à France Bleu Brésisel, Roland Deroux. Dans un instant, vous retrouvez les nuits de France Culture, qu'on surnomme dans le métier la folie de la night. Nous, on se retrouve samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien.